rentrer dans ma secte.
Moi, un rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Nouveau.
Ce soir.
Et bien voilà, le ton est donné. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Vous avez rendez-vous avec nous, une soirée énervée, toujours en deux temps et à deux vitesses. Allez, je vous dis tout. 18h en podcast avant même que cela ne passe à l'antenne, de 22h à minuit. Première partie, c'est toujours l'actualité et la musique live. Deuxième heure, les archives extraordinaires de France Inter. L'actu ce soir, dérive sectaire. Hier, c'était la sortie du film Les Éblouis, l'histoire d'une famille catholique qui adhère à une secte charismatique. L'occasion de revenir sur ses engagements, sur la dynamique du phénomène sectaire en France et de se demander aussi quelles sont les nouvelles sectes apparues ces dernières années, Christophe Bourseiller.
Oui, c'est tout à fait juste. Alors, on avait des tas de titres formidables pour présenter ça. Bien sûr, tous éblouis, point d'interrogation, c'est la moindre des choses. Les dérives sectaires aujourd'hui, c'est le côté sérieux. Ou alors, les sectes, ça continue ? Point d'interrogation.
Ouais, ouais,
on est les rois du point d'interrogation.
Hein.
Les sectes aujourd'hui, combien de divisions ? Point d'interrogation, bien sûr. Sectes, les cathos aussi. Pareil, point d'interrogation. Puis alors, un peu plus surréaliste, mais pourquoi pas. Si Sectenson.
Ah, c'était
côté
pas mal.
Gainsbourg, côté Gainsbourg. Ou alors, Secten Drugs and Rock'n'Roll.
Super.
Point d'interrogation.
Si,
c'est vraiment un feu d'artifice.
Oui, j'ai tenté les choses.
Et pour le live, Marion Guilbeault, qui avez-vous réussi à enrôler, vous, la gourou du NRV?
Ah, leur prochain album ne sortira que le 28 février prochain, mais Dionysos nous fait un cadeau. Un titre en avant-première et en live à la fin de l'émission.
Et puis, autre temps, autre parole, ce sera le NRV La Suite, France Inter+, dernier épisode de la série Give Me Cuba de Guy Vanctil. Allez, le NRV, c'est parti.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Et avant de vous lancer dans un prêche ébouriffant, Christophe Bourseiller, je vous présente nos invités. Dominique Besnéard, vous êtes producteur du film Les Éblouis de Sarah Succo. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
À vos côtés, non, en face de vous, Christine Pedotti, directrice de Témoignages Chrétiens. Bonsoir.
Bonsoir.
Daniel Sisco, vous êtes président de l'Association pour la Défense de la Famille et de l'Individu. C'est ADFI de Paris. Bonsoir à
oui,
vous.
Oui, bonsoir. Et pour donner une signification exacte, il faut rajouter victime de secte. Sinon, on peut se demander ce que je fais là.
Exactement. Et Anne Josso, vous êtes secrétaire générale de la mission interministérielle de vigilance et de lutte dans le, contre les dérives sectaires, la
MIVILUD.
Exactement.
Bonsoir.
Bonsoir
à
vous. Christophe, on y va.
Eh bien, écoutez, très cher Laurent, ce n'est pas vous que je vais apprendre ce que c'est qu'une secte. Vous qui avez successivement appartenu à la scientologie, à la secte Moon, au mouvement raélien, au renouveau charismatique, à la fraternité Saint-Pédis, avant de rejoindre récemment, si les informations que j'ai colligées sont bonnes, les Illuminati. Vous passez d'ailleurs à Radio France pour un illuminé de premier plan. Alors peut-être.
Et vous, un ébloui, on s'accorde.
Alors, vous observez, Laurent, que j'ai cité ici des mouvements qui datent. Si je mets de côté les Illuminati, qui constituent une légende urbaine et n'existent évidemment pas, donc là j'attends les tweets, vous dites ça parce que vous êtes vous-même un Illuminati, etc. Les sectes ici citées remontent au XXe siècle. Alors, où en est le phénomène aujourd'hui? Y a-t-il de nouvelles sectes et lesquelles? Alors, dans son très bon film Les Éblouis, que je dis ça parce que je l'ai vu, Sarah Succo nous plonge dans un univers inattendu. Se peut-il que parmi les catholiques se glissent donc au sein de l'Église de dangereuses dérives sectaires? On pourrait en dire autant, bien sûr, des protestants, des juifs, des musulmans, des bouddhistes ou des hindouistes. Ce qui frappe, Laurent, dans Les Éblouis, c'est le côté insidieux de la dérive. On est doucement happé, puis doucement broyé. Alors Dominique Besnéard, vous êtes le producteur du film de Sarah Succo, qui raconte donc l'odyssée d'une jeune fille entraînée par ses parents à l'adolescence dans une secte. Avant de vous poser un feu nourri de questions, bien sûr, je propose qu'on écoute la bande-annonce du film.
Vous faites partie de la communauté de la Colombe, c'est ça?
Oui.
Et en quoi ça consiste exactement?
On mène des actions sociales pour les plus démunis du quartier.
Ça doit être spé, non?
Un peu. On propose d'être leur comptable.
Maman?
Je m'inquiète pour maman.
Bah, tu pries pour elle. Le Saint-Esprit l'aide à guérir.
T'y crois, toi?
Ça se passe bien dans ton couvent? Tu connais rien à ma vie, alors ferme-la.
Mais tu vas te calmer, Mère Teresa.
T'as soin de tes moines!
Pauvre fille!
Je vous cache pas que l'attitude violente qu'a eue votre fille, ça me préoccupe.
On va prier sur elle.
Jésus, fais que les parents ne rentrent plus jamais.
Et Mathieu a ne plus puer du cul.
Tu vois pas dans quel état ils te mettent?
Tu arrêtes maintenant!
Laisse-moi, toi!
Non,
mais c'est quoi ce délire? Vous êtes même pas pratiquant.
Vous êtes dans le jugement, Jean-Jacques.
Mais c'est de la vie des gosses dont il est question, merde!
C'est pas normal, Camille.
T'inquiète.
Putain, mais arrête de faire comme si tout était normal.
C'est Jean-Jacques.
Je veux plus faire semblant.
Pour sortir, pour qu'on se ressemble.
Camille, tu as fait entrer dans notre communauté la suspicion et le vice. Nous écoutons ta demande de pardon.
Non.
Dominique Bessner, nous écoutons votre demande de pardon. Alors évidemment, le film de Sarah Sukho...
Vous en aurez jamais de la part de Dominique.
J'espère.
Jamais.
Dominique Bessner, le film de Sarah Sukho, les Éblouis, est-ce que c'est un film autobiographique? Est-ce que c'est vrai ce qu'elle raconte ou est-ce que c'est une œuvre romancée?
Je pense que c'est autobiographique, bien qu'elle n'ait jamais parlé beaucoup de son expérience, de sa vie personnelle, jusqu'à la promotion. On avait des faisceaux, certainement, de sa vie, mais c'était jamais délibérément raconté. Enfin, moi, qui suis très proche d'elle, elle m'a raconté quand j'ai lu, parce que j'avais fait un court-métrage avec elle avant.
Et donc elle m'avait parlé en confidence.
Elle m'avait en confidence, mais jamais vraiment dans, il y avait, avant de faire le film, il y avait une vraie souffrance. Et elle a commencé, alors, quand on a lu le scénario, bien sûr, on lui a dit, mais tout ça est vrai, oui, mais du reste, elle ne donne pas le vrai nom de la communauté. Elle appelle ça la communauté des Colombes. Elle n'a pas vu ses parents depuis très, très longtemps.
Oui, parce que eux sont restés, hein, oui, dans cette communauté.
Et du reste, par contre, tous les enfants se sont, comme dans tous le film, partis, rassemblés. Oui. Et si justement elle n'est pas là ce soir, c'est parce qu'elle a un problème personnel de famille. Donc ça veut dire avec ses frères et sœurs. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui a le sens de la famille. Et donc c'est au fur et à mesure. Je veux dire, il y a des gens qui racontent tout de suite leur vie. En plus, moi, j'ai toujours été agent, donc on m'a toujours raconté la vie de tout le monde. Chacun me raconte sa vie.
Je te précise, hein, pour les auditeurs qui ne me connaissent pas, agent de cinéma et pas agent de police.
Oui. Et donc elle a eu beaucoup de, il y a beaucoup de dignité, il y a beaucoup aussi de pudeur, et c'est en lisant le scénario que j'ai compris vraiment ce qu'elle avait vécu.
Juste une question par rapport à ça, parce qu'elle est comédienne par ailleurs, elle a écrit ce scénario, mais au départ, il n'était pas question pour elle de filmer, de faire ce film. Pour quelle raison vous avez insisté pour qu'elle prenne la caméra et que ce soit elle?
Elle n'a pas été si directe que ça. Elle m'a fait quand même comprendre que elle avait envie de faire le film. Mais on a fait ce court-métrage, justement, qui a eu plein de prix, qui s'appelle « Nos enfants ». Encore, et elle, il a fait des bouts, il a fait le tour du monde, et là, on a vu qu'elle, parce que elle, en même temps, elle est très pragmatique. On comprend aussi que, parce que le personnage que joue Céleste, elle est pragmatique, c'est la gamine, même si elle se bat, donc elle a le sens du réel, alors que les parents sont partis dans les songes, et elle a dit, je veux faire d'abord un commentaire pour voir si je suis capable. La direction d'acteurs, généralement les acteurs savent le faire, mais là tout le côté technique, le premier court-métrage nous a encouragé à faire le long-métrage.
Et là dans ce long-métrage, elle ne raconte qu'une partie de la vérité, puisqu'elle ne rentre pas dans tous les détails. C'est dans le dossier de presse par exemple, on apprend que le jeudi, on délivrait dans cette communauté des repas lucernaires, c'est-à-dire qu'on fait manger le Christ, que personne, qu'on attend, si le Christ vient pour
on lui parle
manger,
pendant le repas.
Parle à Jésus et on ne parle pas entre nous. Ça, on ne le voit pas dans le film, parce que c'est vrai que ça paraîtrait comme un truc de scénario complètement délirant. Vous avez vu le film, tous les deux, Daniel Sisko et Andresso. Oui. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce portrait à charge, bien sûr, de cette communauté?
Il y a beaucoup de choses. Et il y a tout, en fait, dans ce film, mais il y a tout à petite touche, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exagération. C'est ça qui est extraordinaire.
Et pourtant, on a l'impression, par exemple, quand il y a des réunions et que, avant que le prêtre n'arrive, tout le monde se met à bêler. Comme des chèvres, c'est vrai que ça paraît complètement surréaliste.
Puisque d'ailleurs, le gourou, entre guillemets, se fait appeler le berger,
ça voilà. Très bien. C'est parce qu'ils attendent le berger, logique. Mais c'est vrai, c'est si logique. Vous voulez, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'elle a mis tous les éléments qui constituent une dérive sectaire. Depuis, on va dire, une espèce d'hystérie collective au moment de la cérémonie qu'ils mènent, où ils lèvent tous les bras en l'air, ils s'exclavent, ils chantent ensemble, ils se balancent même d'un côté à l'autre, jusqu'au viol de son petit frère. Donc je veux dire, elle a vraiment tout mis de ce qui caractérise en général...
Avec une dimension assez effrayante, c'est ces espèces de séances mi-prière, mi-confession, mais à plusieurs personnes, dans lesquelles des femmes vont essayer d'inventer des souvenirs factices de viol de la part de leur famille, restée à l'extérieur de la communauté, Anjosso, c'est ça?
Oui, je trouve le film...
remarquable dans la retenue, voilà. Compte tenu justement du fait que la réalisatrice a vécu les choses de l'intérieur, elle est très en deçà dans le film.
Le film est en deçà de la réalité, vous
tout
dites.
Tout à fait en deçà de la réalité. Oui. S'agissant de la communauté qu'on connaît très bien.
Que vous connaissez, oui.
Oui, bien sûr. Ouais.
On la reconnaît, forcément.
Elle est en deçà. Elle montre des aspects très positifs, très joyeux, la joie, le côté très séduisant.
D'être ensemble.
C'est pas un film, ouais. Voilà, d'être ensemble.
Familial,
il y a des chants. On a entendu ce chant au début. Donc, elle ne montre pas que la part sombre. Et c'est ça qui est intéressant, parce que dans la dérive sectaire, il y a la séduction, l'attractivité, les gens viennent chercher des éléments positifs. Elle montre tout ça et comment doucement ça dérape. Je ne suis pas sûre que les spectateurs peuvent, le film est tellement dense, percevoir tous les détails qu'un œil professionnel comme le
par
mien...
Par exemple, quel type de détails on n'aurait pas perçu?
À un moment, il y a la question de l'argent.
Oui, mais
il y a énormément d'argent dans cette communauté. Donc on voit qu'il y a des billets. À un moment, les grands-parents qui sont les personnages qui vont saisir une association comme la DFI ou qui vont saisir la Miviludes, ils sont à l'extérieur et ils voient le désastre.
C'est-à-dire que les parents ont tout donné à cette communauté,
voilà,
c'est-à-dire
qu'ils ont
leur maison,
ils n'ont plus d'autre solution que de rester dans cette communauté et l'argent coule à flot. Un autre détail très important dans le film, mais je ne suis pas sûre que tous les spectateurs vont saisir, c'est une scène où la mère se souvient d'un abus de la part du père.
Et
ça revient, voilà. C'est une question, les faux souvenirs induits, voilà, qui est une technique
parce
de manipulation.
Parce que toutes les femmes se souviennent d'avoir été violées dans leur enfance par un membre de leur famille extérieur au groupe.
C'est un des moyens classiques pour les milieux sectaires, à la fois de récupérer et d'asservir quelqu'un, et puis de casser les relations avec ceux qui pourraient l'aider à quitter le mouvement, avec toute sa famille. Parce qu'on ne peut pas garder des relations avec une famille dans laquelle se trouve quelqu'un qui vous a violé quand vous étiez gosse. Quoi.
Cette communauté donc charismatique, est-ce qu'elle est reconnue par l'Église, la vraie communauté?
Depuis...
Non.
Si.
Plus maintenant. Plus maintenant.
Si. Ah, il y a des accords entre les deux. Alors, on y va. Alors, d'abord Anne et ensuite Daniel pour le bémol.
Allez-y.
Bien. Cette communauté date des années 70, comme toutes les communautés catholiques charismatiques.
Importées des États-Unis pour la plupart.
Hein. Absolument. Il se passe des années et elle est au départ, le mouvement est plutôt bien accueilli. Elle a un succès comme d'autres. Hein. Il y a au moins 4 ou 5 communautés charismatiques en France qui ont eu un succès formidable, avec un développement extraordinaire. Et puis, il faut attendre de nombreuses années avant qu'éclate le scandale, et un scandale de pédophilie. Mais depuis des années, déjà, il y avait des signalements et bien d'autres problèmes qui apparaissaient. Comme dans d'autres communautés, l'Église dit qu'elle a fait le ménage.
Daniel Sesco.
J'allais dire justement que l'Église a mis, il faut dire les choses en face, l'Église a mis beaucoup de temps à se saisir de ce problème. Et pas seulement à cause de la pédophilie.
Elle met toujours beaucoup de temps à saisir des problèmes internes.
On est bien d'accord. D'ailleurs, vous le dites souvent sur votre site.
Christine Pelletti, oui, on va en parler.
Voilà. C'est vers vous, je renvoie la parole sur ce sujet, bien sûr. Mais si vous voulez, ce qui est important, c'est que il faut généraliser, il faut se rendre compte que les techniques utilisées dans ce type de mouvement sont applicables, qu'il y ait ou non Dieu.
Mais ce qu'on
présent.
Sent aussi, moi, en voyant le film de Sarah Succo, c'est la sincérité du berger, interprété par Jean-Pierre Darroussin. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il est véritablement, il manipule évidemment, mais en même temps, on a l'impression qu'il le fait de façon, je me trompe peut-être, mais de façon sincère.
Il est sincère par rapport au dogme qu'il promeut. Je veux dire, quand vous expliquez que il faut battre les enfants, c'est pas le cas dans cette communauté, mais je vous donne un autre exemple. Quand vous expliquez qu'il faut battre les enfants pour qu'ils obéissent aux parents parce que c'est écrit dans la Bible, ce qui est vrai d'ailleurs, forcément, vous êtes convaincu de ce que vous dites. Et sur l'autre communauté, je pense à des images de gens qui sortent d'un procès où on les accusait de violence envers les enfants et qui disent... Mais on va continuer, puisque c'est écrit dans la Bible.
Puisque c'est écrit. Ah, bien sûr que vous n'êtes pas d'accord, vous, hein, avec ce que j'ai dit.
Je ne suis pas en désaccord, mais la question de la personnalité des gourous, des leaders de ce type de groupe. Et c'est une question compliquée. Je pense que quand le groupe se structure et qu'il y a vraiment un abus de pouvoir, que le gourou punit, exclut, règle toute la question de la justice au sein du groupe, et qu'il il commet des dérives et des abus, je ne pense pas qu'il soit inconscient de, voilà,
de ce qu'il produit. Ouais. Dominique Besnéder, j'imagine que comme pour tout film, il y a eu des projections un peu partout en France. Est-ce qu'il y a eu des débats après le film? Est-ce qu'il y a eu des réactions de la part des spectateurs, des témoignages qui sont arrivés jusqu'à la réalisatrice?
On en a fait plein, on a même commencé à Angoulême. La première projection a eu lieu à Angoulême, donc en plus Angoulême, où on a tourné le film, qui est aussi une terre assez catholique. Parce que nous, notre problème, c'était que les gens fassent amalgame. Et parce que quand on attaque des fois les musulmans, on dit mais attendez, les musulmans classiques se sentent atteints.
Quand on parle des islamistes,
voilà,
par exemple.
Oui. Et là, nous, on avait peur de ça. Et c'est pour ça que Jean-Pierre Mignard a vu le film assez tôt. Jean-Pierre Mignard, c'est un ami qui était au Parti Socialiste, que j'ai connu, et surtout qui est catholique, et qui l'exprime, et il est un témoignage chrétien.
Et avocat.
Avocat, oui, c'est un problème. C'est vrai qu'il est avocat, je pense à l'ami avant l'avocat.
Ah oui, mais c'est important qu'il soit avocat.
Et donc, beaucoup de gens, même quand on a fait lire le scénario, moi je fais lire le scénario à des prêtres, qui l'ont tous dit, non, il faut le faire, il faut le faire. Et quand vous disiez, on est en dessous de la réalité quand il belle et tout ça, eh bien je peux vous dire que les gens de cinéma, ils ont pensé qu'on allait trop loin. Et on a été refusé à Cannes, et je le dis, parce que j'ai envie de le dire, à la semaine de la critique, on dit maintenant c'est pas crédible, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ridicule. Et là, quand on voit les papiers, personne, aucun critique ne dit que c'est ridicule. Mais je sais pas, il y a un moment donné, on préfère parler de l'histoire d'une actrice prostituée qui devient une femme... de temps en temps, je suis énervé, parce que ce film avait sa place à Cannes.
Que le film de Rebecca Zlotowski.
Voilà. Qui, pour moi, Et donc, je trouve que les gens de cinéma ont été un peu choqués. Enfin, ceux qui décident, ceux qui ont vu le film, parce que les décideurs, tout le monde a voulu le faire. Hein. France Télévisions, Canal, voilà. Mais c'est bizarre que de temps en temps, les gens n'ont pas vécu. Ça me fait vraiment plaisir que vous disiez. C'est un peu en disant c'est trop, mais c'est pas trop. C'était son vécu. C'est et justement, je trouve ça très bien d'être dans cette émission, parce que pour en manquer, il y a aussi beaucoup de pudeur, il y a pas de pathos, il y a une espèce, l'os est à vif, voilà, et c'est ça qui est intéressant.
Esselé, j'ai peur de devenir fou. Je vois danser les orages, j'ai peur de devenir fou parfois. Et ce l'est. Et ce l'est. Sur la forêt, la foudre s'abat, je sens sa chaleur. J'ai peur de devenir fou parfois. Et ce l'est. Et
devenir fou parfois. Et ce n'est
quelquefois, il vaut mieux être esselé qu'enrôlé. C'est chanté par Isia en duo avec Dominica, la programmation célibataire ce soir pour Jean-Baptiste Audibert.
Camille, tu as fait entrer dans notre communauté le mensonge, la suspicion et le vice. Pire encore, tu as mis en danger tes petits frères et sœurs. Tu les as abandonnés. Tu nous as volés, tu as volé ta propre mère. Tu n'as pas su voir ce qui se passait. Nous allons prier pour que tu reviennes dans le Seigneur.
Le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Nous écoutons ta demande de pardon.
Non, sur France Inter.
Il me faut tellement la trouille d'Arrow 5, moi j'aurais dit oui. Communauté charismatique et dérive sectaire, c'est le sujet du Énervé ce soir à l'occasion du film Les Éblouis. On vient d'en entendre un extrait, on en parle avec Dominique Besner, c'est le producteur du film, Christine Pedotti, directrice de Témoignages Chrétiens, Daniel Sisco, président de l'Association pour la Défense de la Famille et de l'Individu, et Anne Josseau, qui est secrétaire générale de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. À ce propos, le dictionnaire des sectes publié par le centre Roger Icor avait dressé en 98 une liste des sectes dans laquelle on retrouve des groupe d'églises officiellement reconnus par l'autorité ecclésiaste. Focolari, Béatitude, Chemin Neuf, Buisson Ardent, Communauté Chrétienne de Formation, Opus Dei et Légionnaire du Christ. C'est tout ce qui est cité. Vous êtes d'accord avec cette liste, Christine Pedotti?
Je ne suis pas sûre qu'elle soit exhaustive.
En tout cas, tous les noms qui sont balancés sont bons.
Oui, tout à fait.
Mais c'est des réalités très différentes.
C'est des réalités différentes. D'ailleurs, au fond, on a inventé un mot valise très utile pour les désigner. On les appelle les tradismatiques. C'est fabriqué avec le mot traditionnaliste et le mot charismatique. Parce qu'en fait, les charismatiques, ils sont apparus dans les années 70, au moment où il y a une crise de l'église, dans l'église, qui est secouée par les mouvements sociétaux. Et arrive des États-Unis le mouvement évangélique, et il y a une espèce de jeunesse agitée, joyeuse, qui chante, qui danse, qui agite les mains, etc. Tout ça semble extraordinairement sympathique et a priori moderne.
Tout à fait.
Et puis, on va s'apercevoir assez vite qu'en fait, ces mouvements-là... Beaucoup de ces mouvements sont extrêmement traditionnalistes. Et puis naissent aussi, plutôt dans les années 80 ou 90, des mouvements beaucoup plus traditionnalistes. Et au fond, il y a une sorte de cristallisation du point de vue de la catholique que je suis, hein, entre ces deux aspects, la tradition et cette espèce d'agitation charismatique. Et donc, ça fabrique les tradismatiques. Du coup, on est obligé d'étendre l'affaire à d'autres groupes qui sont plus clairement traditionnalistes. Donc on a par exemple les frères de Saint-Jean qui sont visés par un scandale monstrueux aujourd'hui où on s'aperçoit que les frères ont violé les petites sœurs, que le fondateur était un gourou violeur, abuseur, etc. C'est aujourd'hui pour l'Église catholique, alors les légionnaires de Christ n'en parlons pas, je pense qu'aucun scénariste n'aurait osé imaginer un personnage aussi monstrueux que Martial Maciel qui est un homme qui crée une communauté, donc les légionnaires du Christ, qui viole ses séminaristes, qui mène une triple vie puisqu'il a trois femmes, des enfants, qu'il viole ses propres enfants, et qu'il est adulé par Jean-Paul II, qui en fait quasiment un saint vivant, jusqu'à ce que Ratzinger, devenant Benoît XVI, arrête l'affaire, lequel Martial Maciel, pour autant, va mourir dans une villa en Floride, sans avoir... Voilà. Donc, il s'est passé ça, quand même, dans l'Église catholique, cette espèce de conglomérat tradismatique. Alors, pourquoi ça a si bien marché, du côté des catholiques? Et pourquoi est-ce que les évêques, dans leur nom, un évêque, c'est un surveillant. Donc ça devrait avoir l'œil là-dessus. C'est qu'en fait, ils sont, tous ces gens qui sont dans les sectes, ils sont beaux, ils sont souriants, ils sont chantants, ils sont nombreux, ils donnent des prêtres à une église qui en perd. Donc du coup, il y a une... En fait, il y a des gourous, mais il y a aussi des évêques qui sont littéralement gouroutisés par les gourous. Donc c'est ce système-là qui a été mis en place. Donc malheureusement, la liste n'est pas exhaustive.
Alors, cela dit, la liste n'est pas exhaustive, mais pour aller dans le sens de ce que vous dites, Sarah Succo, parlant de son film Les Éblouis, dit « J'ai su qui était Michael Jackson quand je me suis enfui de la communauté à 18 ans. Elle a grandi sans télévision, sans radio, sans téléphone portable, bien évidemment. » Et alors, il semblerait que la communauté dont s'inspire le film, ce serait la communauté des Béatitudes.
Je ne peux pas l'affirmer, puisque il faudrait que qu'elle nous le confirme. Mais a priori, oui, ça ressemble aux Béatitudes, qui d'ailleurs s'appelaient autrefois le Lion de Juda et l'Agneau immolé. Et ils ont trouvé que c'était peut-être pas assez vendeur, et c'est devenu les Béatitudes. En tous les cas, on a des témoignages qui ressemblent strictement à ça, venus des Béatitudes, indiscutablement.
Daniel Cisco, est-ce que l'Église, depuis donc les révélations de ces dernières années, a mis en place des procédures aujourd'hui pour pouvoir attaquer et accueillir même les gens qui portent plainte contre ces dérives sectaires?
Je peux difficilement parler des procédures internes à l'Église, mais apparemment, ça n'a pas de conséquences visibles. Je dirais volontiers cela.
La commission Sauvé, hein, la commission indépendante sollicitée par l'Église, Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d'État, homme vraiment au-dessus de tout soupçon, a étendu de lui-même les sujets que traite sa commission des mineurs, puisqu'au départ c'était des abus sur mineurs, aux abus sur majeurs. Parce qu'en fait, ils découvrent que non seulement il y a des abus et des viols d'enfants, la pédocriminalité dont on a beaucoup parlé, mais qu'en fait, les abus sur majeurs dans le cadre sectaire catholique, j'ai été auditionnée par la commission Sauvé il y a très peu de temps, et aujourd'hui, c'est ces témoignages-là aussi qui rentrent.
Anne Jossot ?
Si je puis me permettre, à la Miviludes, on travaille très très bien avec la pastorale, nouvelles croyances et dérives sectaires, qui est installée par la Conférence des évêques de France, qui a été réformée en 2013. Nous avons beaucoup d'échanges avec notamment la sœur, qui est une magistrate devenue sœur. Et nous échangeons. Je crois que, bien sûr, on ne va pas parler de tous les problèmes qui existent au sein de l'Église catholique, mais il y a une prise de conscience de ce qu'on appelle l'abus spirituel dans beaucoup de communautés, sans même parler de dérives sectaires. un accompagnement des frères et des sœurs qui sont rentrés trop tôt, sans maturité, qui ne comprennent pas bien l'obéissance, etc. Enfin, toutes ces questions-là, elles sont prises en charge. Donc, ceci étant, c'est vrai que l'Église catholique, c'est pas un bloc. Malgré les hiérarchies, etc., il y a des évêques plus ou moins, comme vous le disiez, séduits par des traits tradis, par d'autres qui font effectivement, qui revitalisent. Donc voilà, il y a des mouvements, des courants, mais je trouve que ce serait dur quand même de dire qu'il n'y a aucune action qui est engagée.
Alors, est-ce que c'est pas un peu abusif de faire l'amalgame entre l'extrême droite catholique, qu'elle s'incarne dans la fraternité Saint-Pie-X ou qu'elle s'incarne même dans l'Opus Dei, et les communautés charismatiques qui sont quand même les héritières d'une tradition presque hippie des années 70 et qui me semble quand même relativement différente. Je cite Sarah Sukot, j'ai mes sources, hein. Sarah Sukot, ici nous ne sommes ni dans le temple solaire, ni dans une cellule djihadiste, mais dans l'église du coin de la rue, en plein cœur d'une ville de province. Donc c'est ce qui rend le film fort, à mes yeux en tout cas, c'est ça, c'est le fait que justement, on n'est pas dans des mouvements d'extrême droite suisse ou autre.
Ce qui s'est produit, c'est que il y a tout l'effet de la dérive New Age qui a inondé effectivement l'Église catholique, mais comme le reste, si vous permettez, je crois qu'il ne faut pas non plus se fixer sur l'Église catholique.
La troisième partie, on parle d'autre chose.
Parce que ça touche aussi tous les mouvements chrétiens, globalement. Mais en plus, c'est très varié, comme disait Anne-Josué il y a un instant, parce qu'on ne peut pas faire un monolithe de l'Église catholique. Vous avez une scène dans le film, deux fois, deux personnes ont été exorcisées dans ce film.
Dans le film de Sarah Sukot, oui.
Dans le film de Sarah Sukot. Et ce qui est intéressant, quand même, comme rapprochement, vous confirmerez si je me trompe, mais j'en ai rencontré un, donc il doit exister, le diocèse de Paris a deux exorcistes, deux prêtres exorcistes. Donc, je veux dire, l'exorcisme est intégré à un fonctionnement d'une église, qu'elle soit catholique ou autre, peu importe, et ça s'appelle pas exorcisme, ça peut s'appeler autrement. Mais je crois qu'il faut aussi prendre en compte, par exemple, tout l'épisode de culpabilisation que vous avez passé tout à l'heure dans l'extrait du film qu'on a entendu, tout l'épisode de culpabilisation, parce que plus vous culpabilisez, plus vous ralliez vers vous la personne qui veut se racheter.
Anne-Josso.
Je crois que il y a effectivement ce qui ressemble vraiment à la définition de la dérive sectaire dans quelques-unes de ces communautés charismatiques et les tradis dont vous parliez. Je crois que ce qui pose problème dans les deux sphères, c'est la question de la protection des mineurs. Voilà, donc dans certaines communautés très traditionnalistes, extrêmement fermées, qui diabolisent l'extérieur, etc., nous ne retrouvons pas tous les éléments de la dérive sectaire, et notamment pas forcément l'emprise, mais en revanche, il y a un vrai sujet sur la protection des mineurs et les conditions d'épanouissement de ces jeunes.
Eh bien, je vous propose de prendre le temps de méditer ce qui vient d'être dit. Le temps d'une chanson, sa foi, l'américain Bon Iver l'a mise dans l'autotune et dans une musique aussi planante qu'inspirée sur France Inter.
We have to know that faith declines. I'm not out of bed.
Depuis qu'on est né, notre conscience a été manipulée. S'habiller, même une manière de parler, de réfléchir, d'agir, de respirer, tout était conditionné. C'était un monde.
France Inter.
La télé, les médias, c'était des mensonges, c'était satanique. Aller au cinéma, c'était malsain. Tout ce qui se passait en dehors de cette communauté était malsain.
Le nouveau rendez-vous.
D'un côté, on se dit, si on s'en va, où est-ce qu'on va aller? Alors du coup, la sensation, c'est ben, on reste, parce qu'on est quand même plus en sécurité dans ce qu'on connaît.
Laurent Goumard.
Témoignage de rescapés des sectes au sens large du terme, parce que là on va ouvrir le débat, c'était sur France 2, les sectes ce soir, c'est le sujet du NRV, mais juste pour revenir à une secte, je ne sais pas si elle était vraiment charismatique, j'aimerais qu'on revienne un instant sur l'histoire de ce médecin urgentiste de 31 ans, Alberto Mahalouf, accusé de dérive sectaire. Son association s'appelait Notre-Dame Mère de la Lumière, 10 personnes, un site internet qui s'appelait Open Bible, des concerts de pop louange diffusés sur le net, des prières de guérison. Il y a eu procès, on en est où ?
La puissance publique a fait appel de la décision, donc c'est une décision qui n'est pas définitive.
Donc c'est super dur à prouver, c'est quoi l'histoire en fait ?
Oui, dans ces affaires, ce qui est très compliqué, c'est qu'il faut arriver à mettre en évidence que les personnes sont sous emprise, qu'elles ont perdu leur libre arbitre, qu'elles subissent des préjudices du fait de cet état, et que cet état a été volontairement induit. Donc c'est une triple condition de preuve qui est extrêmement difficile à mettre en œuvre. Et finalement, la plupart des condamnations, et nous en avons de plus en plus, les avocats des victimes vont plutôt aller sur des, je dirais, des infractions plus faciles à prouver, bien sûr les abus sexuels, mais du travail dissimulé.
Donc des choses punies par la loi et non pas... Oui, non.
Voilà, et plus facile à prouver.
Alors, la Miviludes, on en parle beaucoup en ce moment, parce qu'il y a tout un projet qui semble se dessiner, comme quoi la Miviludes pourrait évoluer, elle pourrait être fondue dans un service du ministère de l'Intérieur, qui serait plus précisément dédié à la lutte anti-radicalisation. Est-ce que ça veut dire que les sectes, ça appartient au passé, qu'aujourd'hui le gouvernement, met de côté la lutte anti-secte pour se concentrer sur la lutte anti-radicalisation, Daesh, Al-Qaïda, etc. Est-ce que la Miviludes est en danger, Anne Josso, à votre avis ?
Alors, il m'est difficile de commenter en tant que fonctionnaire, de commenter une décision du gouvernement. La Miviludes a travaillé au départ, dans les années en 2014, sur la question de la radicalisation, parce qu'il y a des points communs et des mécanismes communs. L'idée, c'est donc qu'il peut y avoir des synergies sur ces sujets. Le gouvernement actuellement dit qu'il n'est pas question d'abandonner le sujet des dérives sectaires. Il est, je crois, en tout cas, nous avons fait à la Miviludes tout notre possible pour informer et rappeler que nous avons beaucoup de demandes de la part du public, donc nous avons un service à rendre au public. Ce qui est sûr, c'est que le sujet a beaucoup évolué depuis la création de la Miviludes.
Daniel Cisco, président de l'Association pour la défense de la famille et de l'individu de Paris.
Je n'ai pas les mêmes obligations de réserve.
Non, donc, moi, vous pouvez y aller, allez-y.
Je vais vous faire part du sentiment, parce que pour l'instant on ne peut pas dire autre chose, concernant la Miviludes, vu du côté des associations. La Miviludes est un partenaire sur lequel nous comptions, avec lequel nous travaillons. Alors, il avait un avantage qui était d'être transministériel, mais l'organisme dont on parle pour l'accueillir, là aussi. Là n'est pas le problème, c'est que il ne faudrait pas que l'arbre cache la forêt. Je veux dire, le système de radicalisation, aujourd'hui, est parfaitement géré, semble-t-il, en tout cas, à part quelques dérives ponctuelles, est parfaitement géré par la police, ce qui est très bien, c'est normal. Dans la dimension secte, il y a autre chose qu'une dimension sécuritaire. Il y a une dimension humaine, une dimension psychologique. Anne l'a un peu effleuré tout à l'heure en parlant de l'emprise. Il y a partout, dans tous les mouvements sectaires, une manifestation d'emprise psychologique considérable. On n'enferme pas quelqu'un avec son consentement par-dessus le marché, sans qu'il y ait des techniques d'emprise très poussées. Et donc, alors bien sûr qu'il y en a aussi chez les gens qui vont sur Daesh, par exemple, pour prendre un autre exemple. Mais les finalités sont pas les mêmes.
Mais par exemple, Daniel Cisco, Georges Fenech dit que depuis 2017, il n'y a plus de groupe d'études sur les sectes à l'Assemblée nationale.
C'est vrai.
Il y a une évolution là. Est-ce que ça passe de mode? Enfin,
alors voilà, moi j'ai l'impression que c'est un laisser-aller un petit peu.
Oui.
Je vois pas une machination ou quoi que ce soit de ce type. C'est pas du tout ça. Et puis après tout, on peut discuter des décisions d'un Premier ministre, mais c'est lui qui les prend. Hein. Donc après, c'est un autre problème. Mais ce qui est important, c'est que il y a une espèce de relâchement. On considère que ça n'est pas un problème.
C'est pas peut-être parce qu'il y en a moins, peut-être, non?
Un problème d'argent,
hélas,
non.
Ouais, comme toujours.
Ça doit coûter cher et que...
Non, c'est pas ça du tout.
Il y en a de plus en plus.
Il y a de plus en plus de sectes.
Alors, c'est plus des sectes au sens traditionnel du mot. Je crois qu'il faut venir sur le mot secte à un moment donné. Nous, on parle plutôt, en tout cas en ce qui nous concerne, mais on n'est pas les seuls, de pensées extrêmes, ce qui inclut beaucoup de choses. Vous parliez des Illuminati et de leurs dérives, avec les gamins qui vous montrent un téléphone portable en vous disant « Mais bien sûr qu'ils existent !» Ça fait partie des pensées extrêmes qu'on essaye de mettre dans la tête, parce que à l'origine de ce genre de démarche, si vous creusez un peu, vous allez trouver de l'antisémitisme primaire. Intéressant quand même, comme manipulation. Mais au-delà de ça, ce qui est important de comprendre aujourd'hui, c'est que finalement, les sectes ne sont plus du tout ce qu'elles étaient. D'abord, on ne sait pas trop ce que c'est, une secte. On sait que tout ce qu'on peut apprécier, on l'a dit déjà plusieurs fois, c'est que quelqu'un tombe dans un piège qui va le détruire psychologiquement. Parfois physiquement aussi, hélas. Et en fait, aujourd'hui, les dérives de type sectaire sont présentes partout dans notre quotidien, et notamment surfent sur tout ce qui est le système du bien-être et la mode du bien-être. On vous parle de choses complètement ahurissantes qui vont vous permettre d'être en meilleure forme, d'être toujours bien portant. Enfin,
il y a un médecin qui vous met des écouteurs sur la tête, qui vous met un masque sur le visage.
Ça n'a rien à voir avec une secte, quand même, ça.
Et qui vous parle et qui vous met en état d'hypnose pour que vous entriez en contact avec vos parents disparus. Et on paye pour ça.
Oui, mais c'est pas une secte.
Ah, c'est une association.
Non, mais c'est une dérive qui peut permettre de faire passer autre chose.
Selon votre raisonnement, Laurent, la scientologie n'est pas une secte, puisqu'elle propose la même chose.
Bah, de toute façon, on ne va pas dire, nous, que la scientologie est une secte. On ne va pas se retrouver demain en correctionnel. Excusez-moi pour diffamation. Mais ceci étant, c'est un mouvement qui essaye de prendre une certaine pesée sur la pensée de ses membres. Donc c'est un mouvement nuisible pour l'individu. Nos amis belges, ils parlent de secte nuisible. C'est intéressant quand même.
Christine Pedotti.
Oui, il me semble qu'une des questions, alors moi je vois ça du point de vue de l'Église catholique spécifiquement, mais je pense que ça peut s'élargir, c'est qu'en fait il y a un abaissement de la puissance des institutions. Donc en fait, au fond, les croyances, vous savez, les sociologues ont parlé du bricolage des croyances, etc. Et en fait, il n'y a plus ces instances régulatrices très fortes que pouvaient être un certain nombre d'institutions, dont l'Église catholique était jusque très peu, parce que finalement, dans l'Église catholique, il y a depuis très longtemps des communautés, on appelle les moines, les moniales, etc., dans lesquelles les règles sont extrêmement intransigeantes sur justement la protection des libertés. Il y a des longs parcours de discernement. Et donc, en fait, on fait exactement l'inverse de ce qu'on fait dans une secte, dans ce genre de processus. C'est-à-dire qu'on vérifie très très longuement, 12 ans chez les jésuites, que le candidat est bien disponible et disposé, etc. Donc la protection de la liberté, avec y compris des choses très particulières, comme quoi le directeur de conscience n'est pas le même que le confesseur. Enfin, en fait, il y a des centaines d'années d'expérience pour éviter les dérives sectaires. Mais l'abaissement de la puissance de institutions comme celle-là, finalement, laisse dans la nature tous les gens qui ont des envies de gourou, enfin, de gourelle, etc. Ou la première chose qu'on fait pour un gourou ou une gourelle, au fond, c'est pas tant de lui donner de l'argent, c'est qu'en fait, on nourrit son narcissisme. C'est d'abord ça, là.
Je voudrais pas vous choquer en disant ce que je vais dire, mais l'Église catholique n'a pas la maîtrise de ce genre de choses. La laïcité est là aussi pour nous aider à filtrer ce genre de choses,
indépendamment de toute conception religieuse. Il y a des choses à faire très fortes.
Mais j'ai l'impression que ce qui complique les choses, c'est que au XXe siècle, il y avait des très grosses sectes qui étaient la scientologie, Moon, Raël, alors qu'aujourd'hui, on est dans un temps où il y a énormément de micro-sectes, c'est-à-dire des tas de petits gourous, des tas de petites, on veut vous aider par tous les moyens à vivre mieux, entre guillemets, et c'est pas toujours la bonne solution.
Ben oui, libéralisme, individualisme, c'est la loi de nos sociétés.
Les témoins de Jéhovah, c'est une Dominique secte Spen. Ou pas? Les Comment témoins de Jéhovah, c'est une secte ou
ça
pas?
Ça discute. Eh ben, c'est Anne Josso qui va répondre.
Oui, alors, on ne parle pas de secte. Voilà. Parce qu'en droit français, on ne définit pas ce qu'est une religion, donc a fortiori, on ne va pas définir ce qu'est une secte. Donc effectivement, quand on parle du sujet, et par raccourci, on va parler de secte, et vous citiez la scientologie, Moon, etc. Et effectivement... Dans les années 95-98, l'État, les parlementaires, parce qu'on nous disait qu'il y avait plus de groupes parlementaires, les parlementaires avaient fait des listes. Ça fait très longtemps qu'on a abandonné ces notions. Et finalement, nous avons cette notion de dérive sectaire qui permet à la fois de travailler sur l'influence de groupes très structurés qui peuvent être des groupes internationaux extrêmement puissants, mais aussi, je dirais, des petites entreprises individuelles. Et nous avons, donc on parle effectivement d'émiettement, d'atomisation du phénomène, parce que effectivement, nous avons beaucoup d'entreprises individuelles. Si vous me laissez le temps, je vous fais un panorama très rapide de la situation des sectes, enfin des dérives sectaires, telles que les observe la Miviludes. Finalement, les mouvements sectaires liés à des convictions religieuses ou philosophiques sont devenus une part minoritaire des signalements que nous avons. Nous avons 2800 signalements par an environ, et près d'un tiers à 40%, c'est dans le domaine de la santé, du bien-être, etc. Ouais. Alors, toutes les médecines douces, complémentaires, alternatives ne sont bien évidemment pas dangereuses. Mais il y a une telle demande de bien-être, d'être heureux, d'apicratie, etc., que des personnes, des prédateurs, font des offres miraculeuses, formidables, proposent des traitements pour des maladies qui notoirement sont absolument pour lesquelles on n'a pas de traitement. Et là, peuvent effectivement exercer une emprise et occasionner des prédations financières et pas seulement.
Ah ben c'est marrant, on a commencé sur la religion, on finit sur le bien-être. C'est vraiment ça.
Tant mieux.
Ça, le mot de la fin. Merci à vous quatre, plus vous, bien sûr, Christophe Boussaillet. Vous restez avec nous, on va retrouver notre gourelle. Je ne savais même pas que ce terme existait.
Non, moi non plus, j'ai jamais
appris ça. Gourelle, vous êtes une gourelle.
Gourelle, on va le réemployer.
Ah bah, c'est pas mal, gourelle.
Dans le cinéma français, il y en a plein, les gourelles.
Sur France Inter.
Mais non, Marion Guilbault, vous n'êtes pas une gourelle.
Ah,
vous êtes une maîtresse de cérémonie.
Allez, une MC. Alors, ça fait 25 ans que Mathias Malzieux emmène Dionysos sur toutes les routes réelles. Parce que le groupe s'est construit sur scène avec des concerts homériques. Mais aussi, il les emmène parfois dans des croisières imaginaires, comme cette dernière effectuée à bord d'un certain Flower Burger. Alors, c'est quoi le Flower Burger? Ben, c'est un bateau, resto, discothèque, cabinet de curiosité qui sert des burgers aux fleurs. Bon, ben voilà, vous avez compris. Un pitch pareil, ça ne peut naître que dans la tête de cet homme-là, Mathias Malzieux.
Ça sent le gourou.
Ouais, ça sent le gourou,
alors
là, ça,
vraiment,
à plein
ça
nez.
Ça sent le gourou, quoi.
À plein
ça
nez.
Ça sent la secte.
Musicien, chanteur, romancier, photographe, cinéaste et auteur d'une œuvre personnelle foisonnante, baroque. Alors moi, j'ai eu la chance d'écouter déjà quelques titres du nouvel album de Dionysos et je vous confirme, hein, on y retrouve leur pop fantasmagorique entre Boris Vian et Nick Cave, leur côté cabaret freak show, ces histoires à rêver debout avec des chansons à double face. On ne sait pas si elles vont nous faire pleurer ou danser. Bonsoir Mathias, comment ça va ?
Très bien, bonsoir tout le monde.
Alors j'énumérais tout à l'heure vos différentes casquettes, et vous en portez d'ailleurs une très très jolie ce soir, mais vous en coiffez une nouvelle dans cet album, c'est celle de surprisier. C'est quoi ce nouveau métier ?
Surprisier, en fait, c'est être un résistant par l'émerveillement. C'est s'occuper un petit peu de l'écologie émotionnelle, c'est-à-dire essayer de surprendre les gens, de se surprendre soi-même, pour être dans un combat des valeurs du gentil. C'est des valeurs qui se démodent un petit peu. On aime aussi être sardonique, satirique, cynique, tout ça. On aime le noir, mais on aime dans ce moment un petit peu sombre qu'on traverse, faire des trous dans ce noir pour faire des ciels étoilés. Je me rappelle que moi, les premiers trucages dans Star Wars, par exemple, c'était souvent une toile comme ça, avec des petits trous et de la lumière derrière. Être surprisier, c'est faire les petits trous dans le noir et essayer de balancer de la lumière derrière.
Alors c'est un surprisier qui va aussi connaître une incarnation à l'image.
Oui, en fait, cette histoire de surprisier, c'est le personnage de mon dernier livre, Une sirène à Paris. Et en fait, je me suis amusé à écrire ses chansons, parce qu'il est chanteur, et en même temps, le script et du film. Et on vient de terminer le tournage avec Nicolas Duvauchel, Marine Lima.
Vous avez déjà un producteur ?
Oui.
Vous avez un agent?
Non, mais Mathias, ouais. Il a tout ce
bon,
qu'il faut.
Bon, donc on n'a pas besoin de Dominique Besnéard.
Oui, si, on a toujours besoin de Dominique Besnéard.
Ça, c'est certain. On a toujours besoin d'un Dominique Besnéard.
Et grâce à lui, d'ailleurs, grâce à lui, notamment, j'ai fait un court-métrage il y a 3 ans pour les talents Canadami. Et ça m'a beaucoup aidé pour monter le film. Donc, je vous en remercie.
Grâce à lui.
C'était une super expérience.
Donc voilà, donc ce soir, un Dionysos dans la personne de Mathias Malzieu dans le NRV pour une version acoustique et inédite, parce que c'est la première fois qu'ils le font, de leur nouvelle chanson, ça s'appelle Le Chêne, c'est à vous.
Je le connais ce chêne, je le connais, il retient l'horizon, il nous protège. Même quand il neige sur les fleurs de printemps de notre enfance, mémoire sauve du vent entre les branches et à travers le temps. Il me connaît ce chêne, il me connaît depuis bien longtemps. Il n'oublie rien, le chêne. Je me déchaîne pour remonter le temps de notre enfance. Mémoire sauve du vent entre les branches et à travers le temps. Sur le chemin des conifères, je grimpais. Sur le toit des conifères, je rêvais de vivre en accéléré. Tu l'as planté ce chêne, tu l'as planté le jour où je suis né. Il a poussé le chêne, dans le ciel ses branches se sont enracinées. À notre enfance, merci beaucoup.
Super ce chêne chanté par Mathias Malzieu de Dionysos.
Et sifflé par Mathias.
Et aussi est super accompagné, superbement accompagné par Olivier Davio au piano et au chœur. L'album Surprisier va sortir le 28 février 2020. Dionysos sera sur la route, bien sûr, à partir du 27 mars. Il y aura Perpignan, Mérignac, Nantes, Lille, Dijon, Grenoble. Ils seront partout. À La Cigale à Paris, ce sera le 29 avril. Et le film Une sirène à Paris sortira le 11 mars. Le livre est déjà disponible chez Albin Michel depuis le mois de février. La prise de son ce soir était assurée par les Jamais Sectaires, Alexandre Chenet et Paul Percheron. Merci beaucoup et merci Mathias beaucoup. D'être passé par le Nouveau Rendez-vous.
Et merci à nos invités, merci Daniel Sisko, merci Anne Josso, Dominique Besnéard, longue vie au film Les Éblouis de Sarah Succo et Christine Pedotti, on peut vous lire dans Témoignages chrétiens. C'était le NRV première partie, on va se retrouver dans 15 minutes après pour le NRV la suite, pour plus de France Inter. Et lundi, on a rendez-vous avec ça. Ce n'est pas un tracteur, c'est la fusée Ariane, parce que les femmes sont à la conquête de l'espace. Ce sera le sujet du NRV lundi. On attend vos réactions sur le sujet. Vous pouvez laisser des messages, des questions, des analyses sur notre répondeur 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. En live, Marion, lundi.
Elle part à la conquête de la pop, du R&B français. Elle s'appelle Sally.
Le NRV, c'est Marion Lelay à la réalisation, programmation, préparation, Christophe Bourseillet, Adrien Nazelli, Virginie Rosic et Clémence Diligent.
Rendez-vous.